enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous voulons l'écouter soigneusement, la recevoir avec un cœur sincère et la voir agir dans nos vies et dans nos circonstances comme exactement tu l'as prévu. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Gloire à Dieu. On va lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Et nous allons lire ensemble du verset 21 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Kandi uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yibagira yiraba mu kirore mu maso yiwe yavukanye amaze kwiraba akagenda uwo mwanya agaca yiyibagira uko asa ariko uwitegereza ibyagezwe bitunganye rwose ari byo by'umwitegenzo akabishishikara atari uwumva akabyibagira ariko ari ubikora niwe azohabwa umugisha mu byo akora.
Amen.
Amen.
Ce passage,
Ikigiche,
c'est le passage clé pour votre vie. Si tu veux être heureux, si tu veux être heureux, si tu veux être heureux dans tes entreprises, si tu veux réussir dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu fais, c'est mettre en pratique cette parole qui te permettra d'être vraiment heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous soyez heureux? Profondément heureux. Heureux de sa joie. Heureux de son bonheur. Heureux des choses qu'il veut donner. Parce que Dieu est un donneur. Il a donné Jésus et il n'a pas fini de donner. Mais pour pouvoir recevoir de lui, il y a des conditions. Vous savez, dans la vie, quoi que nous fassions, il y a toujours des conditions. Si tu veux manger, par exemple, du pain, la condition, c'est que tu ailles en acheter à la boulangerie. Si tu veux réussir dans tes études, la condition c'est que tu étudies. Si tu as envie de quelque chose, que tu veux faire quelque chose, il y a toujours des conditions, des éléments que tu dois mettre en place. C'est un peu comme une construction pour arriver au but désiré. Amen.
Amen.
Dieu n'est pas un magicien.
Les
claquements de doigts, les coups de baguette magiques, ça c'est seulement dans les films. D'abord, ça n'existe pas dans la réalité. Et ça n'existe pas non plus dans le monde spirituel. Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu veut que son peuple soit un peuple béni. Un peuple qui est pourvu abondamment. Spirituellement. Émotionnellement. Intellectuellement. physiquement. Dieu veut qu'on voit la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'au travers de cela, Dieu veut que vous soyez, nous soyons, l'Église soit un témoignage pour ce monde qui se perd. Un témoignage, c'est quelque chose qui doit être réel. Non pas quelque chose de fabriqué ou d'inventé, mais quelque chose qui soit réel. Si tu respires la joie, le bonheur, que ça se voit sur ton visage, que ça se voit dans ta vie, ça ne sera pas difficile de pouvoir dire, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire. Et il veut aussi le faire pour toi. Et témoigner dans ce sens-là, c'est toujours facile. Vous savez, souvent les chrétiens, ils ont du mal à témoigner. Ils savent que vraiment, il faut amener des âmes au Seigneur, et c'est quelque chose de pénible, de difficile. Oh, par où je vais commencer? Qu'est-ce que je vais dire? Et quand on est là, c'est parce qu'on n'a rien à dire. Quand tu fais une expérience, quand vraiment tu es béni, tu as quelque chose à dire. Amen.
Amen.
Est-ce que tu as quelque chose à dire?
Peut-être
que oui.
Peut-être
que non. Et si c'est non, le Seigneur veut te donner de manière à ce que tu aies quelque chose à dire. Et quand on est vraiment, 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 vraiment béni, et qu'on est tellement touché, tellement ému, tellement abasourdi, Seigneur, tu as fait ça. À ce moment-là, ce n'est pas difficile d'en parler. Amen. Ceux qui ont du mal de parler du Seigneur, qui ne savent pas quoi dire, c'est parce que souvent, ils n'ont rien à dire. En tout cas, rien de personnel. Et quand on lit cette parole, on voit que Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis, que nous vivions dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, que nous ayons un témoignage. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors pourquoi, la plupart du temps, je ne vais pas dire tout le temps, ni même pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, et surtout dans les gens qui vivent dans cette génération, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas épanouis? Pourquoi est-ce que quand ils prient, ils ne voient pas de résultat? Est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que la parole a changé? Non. Est-ce que c'est le diable qui a repris un peu de puissance après tous ces millénaires? Non plus. Amen. Parce que le diable est vaincu et il est vraiment véritablement sous nos pieds. Le problème vient de différentes sources, bien sûr. Mais une chose qui est évidente, c'est qu'il y a un manque d'engagement vis-à-vis de Dieu. Et quand je dis vis-à-vis de Dieu, je dis aussi vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas sa parole. On ne peut pas dire qu'on est engagé avec Dieu si on n'obéit pas à sa parole. Si on prétend cela, oh, j'aime le Seigneur, et en fait tu vis n'importe comment, tu fais n'importe quoi, j'aime la parole de Dieu, et que tu désobéis continuellement à cette parole, ça veut dire en d'autres termes que tu n'aimes pas vraiment Dieu ni même sa parole. Tu aimes Dieu pour ce que tu reçois, pour ce que ça t'apporte, mais tu ne l'aimes pas parce que tu es engagé vis-à-vis. Vous savez, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que nous disons, qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que nous disons, entre ce que nous chantons et ce que nous vivons réellement. Vous savez, aimer Dieu, ça ne veut pas dire venir à l'église. Il y a des centaines et des millions de gens qui vont dans les églises du monde entier et certains même ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui peuvent vous chanter « Oh, Alléluia !» en levant les mains bien haut. Moi, j'ai connu comme ça un homme qui priait ici, il y a très longtemps, il y a au moins 7 ou 8 ans. Il priait dans l'église. C'est lui qui levait les mains plus haut que tout le monde. Et il priait, marchait très vite comme ça. Et tout le monde se disait, mais vraiment, cet homme-là, il aime le Seigneur. Vous savez quoi? C'est lui qui volait dans la dîme. Et c'est vrai, je vous dis la vérité. Il volait dans la dîme. Et un jour, il s'est fait prendre. D'abord, il y a une personne qui l'a remarqué et qui lui a dit, écoute, arrête de faire ça. L'autre a dit, moi, je ne fais rien du tout. Après, il y a une autre personne qui l'a encore remarqué et qui lui a dit, écoute, il ne faut pas que tu continues comme ça. Moi, je ne fais rien. Vous savez, Dieu est bon. Il nous laisse toujours un temps pour nous repentir, pour changer. Mais comme il n'a jamais voulu changer, un jour, il s'est fait prendre la main dans le sac. Et c'était fini. Et il est parti. Parce que même quand il s'est fait prendre la main dans le sac, vous savez, c'est comme les enfants. Des fois, on peut avoir des beignets à la maison. Et tu dis aux enfants, ne touche pas à ça. C'est pas l'heure d'en manger. Non, non, tu n'en prends pas. Et l'enfant te dit, d'accord. Et à un moment donné, tu viens à l'improviste et tu trouves l'enfant qui a la bouche pleine de beignets. Et il y a des miettes même sur ses habits. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Rien. T'as mangé des beignets. Moi? Non. Alors que c'est tellement évident. Et c'est ce que cet homme avait fait. Vous savez, aimer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter, le fait de prier, c'est le fait de lui obéir et d'obéir à sa parole. Parce qu'on le respecte. On pense, on sait au fond de nous-mêmes. Seigneur, tu es plus grand que moi. Tu connais tellement plus de choses que moi. Tu comprends la vie mieux que moi. Tu connais le présent, d'abord le passé, le présent et ensuite l'avenir. Mieux que moi. Je te fais confiance et je veux t'honorer. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment aimer le Seigneur. Quand on lit ce texte, on voit qu'il est écrit « Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Quand on parle de nos âmes et du fait de sauver nos âmes, il ne s'agit pas du salut. Parce que le jour où nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous naissons de nouveau, notre esprit naît de nouveau, et c'est à cause de cela que nous sommes sauvés, parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures, notre esprit est parfait, il a simplement besoin de se développer, parce qu'on peut se développer spirituellement, on est de nouveau comme un petit bébé. Et on a besoin de grandir, de comprendre les choses de Dieu. Et notre esprit a également besoin d'être fortifié. Mais notre esprit n'a pas besoin d'être sauvé. Le critère pour aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. Le moment où tu nais de nouveau, si tu meurs, tu vas au ciel. Il y a eu différents exemples et différents cas de personnes qui reçoivent Christ dans une réunion. Et en sortant,
basohotse.
Il y en a un qui meurt dans un accident de voiture.
Umwe akagira isanganya ry'imodoka.
Il y a eu cette histoire là qui s'est passée véritablement.
Hari inkuru yakoretse.
Il y a des années de cela aux États-Unis.
Haraheze imyaka muri Etats-Unis.
Prédicateur, il fait l'appel.
Umukozi w'umarahamagara.
Il appelle les gens, dit venez recevoir Christ.
Arahamagara ati ngo mwakire Kristo.
Et les gens viennent.
Abantu baraza.
Continuer l'appel.
Yumva ko ataza guhamagara.
Que c'est pas fini.
Ati ntibirahe.
Que dans la salle, il y a d'autres personnes.
Ati mukibanza hari abantu.
Qui doivent absolument être sauvés ce jour-là. Et il insiste. Et il insiste. En fait, ce n'était pas lui qui insistait. C'était le Saint-Esprit qui connaissait l'avenir. Et il disait la chose suivante. Il y a ici, dans cette salle, des personnes, c'est la dernière fois que vous entendez le message de l'Évangile. C'est votre toute dernière fois. Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'il y a pour votre vie, pour ma vie, un dernier jour? Comme il y a eu un premier jour, il y aura un dernier jour. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, peut-être qu'aujourd'hui c'est la première fois que tu entends ce message. Peut-être que tu auras l'occasion de l'entendre une autre fois. Mais sache bien, sois bien sûr du fait qu'un jour, ça sera la dernière fois pour ton salut. Mais mieux vaut ne pas en arriver là. Et tu entends le message de l'Évangile. Tu reçois Jésus là même, tout de suite. Amen. Et cet homme insistait. Et finalement, plusieurs personnes sont encore venues. Et il a senti dans son esprit que c'était bon le moment de prier maintenant, que les personnes qui devaient venir étaient là. Et parmi ces personnes, il y avait un jeune homme. Un jeune homme. Vous savez, on peut être jeune, 16, 17, 18 ans. Pensez qu'on a toute la vie devant nous. Et ce jeune homme, quand il rentre chez lui, il était seulement en train de rentrer chez lui. Vous savez, on dit que le Burundi, c'est un endroit dangereux. Mais il y a certains endroits aux États-Unis, même beaucoup d'endroits qui sont extrêmement dangereux. Parce que les armes circulent librement. Même si ce n'est pas forcément toujours légal, elles sont là. Et ce garçon, il rentre chez lui et il se trouve pris dans une fusillade. Il y avait des voyous qui étaient en train de se tirer dessus les uns sur les autres. Et lui, il est arrivé là sans savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tuer. Alors qu'il rentrait chez lui, de l'église, fraîchement né de nouveau, et gloire à Dieu pour cela, il est parti au ciel. Il y avait aussi un vieil homme. Ce vieil homme, il rentrait chez lui, et dans la nuit, il est mort d'une crise cardiaque. Mais celui-là aussi s'était avancé à l'appel. Il y avait une autre personne d'un âge moyen qui était là, qui s'est avancé aussi. Et cette personne est morte en rentrant chez elle dans un accident de voiture. Voyez, quand on reçoit Christ, nous sommes sauvés. Il n'y a rien à faire de particulier pour pouvoir recevoir vraiment la confirmation, le cachet définitif de notre salut. Notre esprit est sauvé.
Amen.
Mais notre âme ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est que notre âme? Notre âme, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. Quand on lit la Bible, on voit la vie de Jésus. Jésus était parfait dans son âme. Dans sa volonté, il était parfait. Désireux seulement de faire la volonté du Père. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien des hommes et pour la gloire de Dieu. Une volonté parfaite. Des émotions parfaites. Les émotions existent et ça, c'est quelque chose de normal. Nous avons tous des émotions. Mais tout le monde pourra dire ici que parfois, et même souvent, Nos émotions nous jouent des tours. Nos émotions déterminent qui nous sommes. Nos émotions déterminent ce que nous disons ou ce que nous faisons. Parfois, on peut se lever le matin, on est joyeux, mais en fait, on ne sait même pas vraiment pourquoi. Ou se lever le matin de mauvaise humeur, sans aucune raison. On peut aimer quelqu'un ou détester quelqu'un. On peut être en colère. Et parfois, les émotions sont compréhensibles. Elles sont légitimes. Mais quand elles ne sont pas sanctifiées, elles dirigent nos vies et nous amènent dans de mauvaises choses. Pour ce qui concerne le domaine de nos pensées, c'est pareil. La seule personne qui pense correctement, c'est le Seigneur. Je vous assure. Combien de fois, à cause de nos pensées, de nos raisonnements, nous avons fait de mauvais choix, nous avons pris de mauvaises décisions à cause de nos pensées. Je pense que, vous savez, nos pensées peuvent nous amener vraiment dans des problèmes. Je vais vous donner un exemple simple de mauvaise façon de penser et d'un désir de ne pas changer. Il y a plusieurs années cela, j'avais un cuisinier à la maison et quand il nous préparait à manger, c'était toujours mauvais. Même si j'achetais des choses qui coûtaient cher, c'était toujours mauvais. Pourtant, j'achetais les bons ingrédients et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il ne les mettait pas dans le bon ordre. Je donne un exemple simple. Pour cuire de la viande, normalement, on doit couper des oignons, chauffer de l'huile. Quand l'huile est chaude, tu mets tes oignons. Ensuite, tu mets ta viande, du sel, du poivre, différentes choses. Et quand ça commence à griller un tout petit peu, alors on retourne, on mélange bien. Et seulement après, on ajoute de l'eau. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Alors je lui montre une fois. Et ce jour-là, on a bien mangé. Puis à la deuxième fois, je reste à côté de lui. Et c'était encore bien. Et la troisième fois, je me dis, bon, ça va, il a compris. Il sait maintenant comment préparer cette viande, donc je ne vais pas. Et quand on passe à table, c'était tellement infect. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai montré comment faire. Je t'ai donné les bons ingrédients. Pourquoi on mange un truc tellement mauvais? Et en fait, il était retourné dans sa façon de faire. Pourquoi se fatiguer? Tu prends ta casserole, tu la remplis d'eau, tu mets ta viande. Tu mets quand même beaucoup trop de sel parce que... Et une fois que c'est cuit, ah, c'est vrai, on a oublié les oignons. On met les oignons. Et quand tu manges ça, tu peux vraiment pleurer. Parce que c'est infect. Amen. Et nous, les hommes, dans nos façons de penser, on peut avoir les bons ingrédients, mais quand on ne les met pas dans le bon ordre, on arrive à des problèmes. Amen. Celui qui ne se trompe jamais dans ses pensées, c'est Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il veut nous les révéler. Il veut te révéler ses pensées pour ta vie d'une manière générale et aussi pour ta vie d'une manière particulière. Quand tu te trouves devant certaines circonstances et que tu ne sais pas quoi faire, je sais, on nous a tous élevés. On nous a fait grandir en nous disant, quand tu es un adulte, tu dois toujours savoir quoi faire et comment faire. Et souvent, on est pris au dépourvu. On se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et tu te rappelles, ah, c'est vrai, je suis adulte, je dois prendre mes responsabilités. Et tu te dis, ok, voilà, je réfléchis et je fais ça. Et bien souvent, quand tu fais comme ça, tu aggraves les choses. Je pense que la majorité des personnes qui sont ici, Ça vous est arrivé.
Amen.
Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut vous donner ses pensées. Ces pensées qui réussissent toujours. Vous savez, Jésus, il a dit une chose avant de quitter cette terre. Maintenant, c'est dans Jean chapitre 14, verset 12. Maintenant que je m'en vais au Père, les choses que j'ai faites, vous les ferez pareillement, et vous en ferez même de plus grandes. Pourtant, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Dans la plupart des églises, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de victoire, ou tellement peu. Que bien souvent, si on voulait vraiment voir un miracle, il faudrait placer ce miracle sous un microscope et là peut-être qu'on arriverait à
voir.
Ah oui. Ah oui. Dieu a fait quelque chose.
Là.
Mais du temps de Jésus, ce n'était pas comme ça. Du temps des apôtres, ce n'était pas comme ça. Et il ne faut plus que ce soit comme ça. Amen. Amen.
Amen.
Donc, quelle est la clé? La première chose, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. C'est comme ça que commence le passage. On veut être heureux, se sentir bien. Alors arrête de mettre de l'arsenic dans ta nourriture. Vous savez ce que c'est que l'arsenic? C'est ce médicament, comme on appelle ici, qui tue les rats. Ça tue les rats. Imbemba, mbemba, mbemba, imbemba, les rats. Amen. Ça tue les rats. Et en fait, c'est un poison qui n'est pas un poison violent. Vous savez pourquoi? Parce qu'un rat, c'est intelligent. Et je vous assure que c'est vrai. Les rats sont intelligents. Quand on met du poison quelque part, ils vont toujours envoyer un seul parce qu'ils se disent, tiens, ça c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc ils en envoient un, il va manger du poison et les autres regardent. T'es pas mort? Ok. On peut y aller. Et ils mangent tous. C'est comme ça que font les rats. Je vous assure que c'est vrai. Tant qu'ils mangent tous, mais l'arsenic, c'est un poison qui est lent. Il ne meurt pas sur le moment. Il meurt après. Et les rats sont intelligents, mais pas au point de comprendre la différence entre un poison rapide et un poison lent. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en débarrasser. Donc, quand tu mets de l'arsenic dans ta nourriture, tu vas mourir à petit feu. Peut-être ça peut prendre des années, et tout de même, tout le cours de ta vie. Quel est ce poison? Là, on en parle. Débordement de méchanceté, souillure, toutes ces choses, tout ce qui s'appelle le péché. Je vous assure que le péché, c'est du poison qui détruit nos vies. Comme de l'arsenic qui tue le rat. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que les rats aiment manger. Mais j'imagine que quand on met de l'arsenic, on donne à ce poison un goût que les rats aiment beaucoup. Comme ça, ils vont le manger. Et ils vont mourir. Quand on parle du péché, on parle de quelque chose qui a bon goût. Sur le moment, quand tu mens, c'est marrant. Quand tu voles, tu en trouves un intérêt. Quand tu fais autre chose, mais le problème, c'est que tu ne sais pas que tu as avalé de l'arsenic et que ça va te détruire. Amen. Pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, comme il est dit, avec douceur, comment la recevoir avec douceur? C'est-à-dire avec un cœur sincère. Ce qui va pouvoir t'aider à recevoir la parole de Dieu avec douceur, c'est de mettre Dieu en priorité dans ta vie. Qu'il soit le numéro un. Vous savez, bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont tellement de soucis, ont tellement de problèmes, que quand on en vient à la parole de Dieu, ils n'arrivent pas vraiment à la recevoir. Ils reçoivent un tout petit peu, mais au fond, ça ne pénètre pas. Car j'ai vu vraiment des personnes qui ont été bénies, qui ont changé, qui ont prospéré, qui ont évolué avec cette parole. Et d'autres, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils sont tellement absorbés par tellement de choses. Il y a une chose que nous devons faire, c'est de garder dans nos cœurs la soif de Dieu. Parce que quand tu as vraiment soif de Dieu, tu ne penses pas à autre chose. Bon, tu y penses, mais un petit peu. Ça ne te prend pas toute la tête, ni toute ta vie. Vous savez, ici il y a des mamans, je sais qu'il y a des mamans, et ceux qui ne sont pas des mamans, vous pourrez comprendre cet exemple facilement. Quand on est une maman, on a des enfants qui sont là, et parfois on est fatigué, parce qu'on a travaillé toute la journée, on est vraiment fatigué, ou on est absorbé, on est en train de penser à ce qu'on va préparer comme repas, ou on est en train de penser que tiens, tel enfant, il a sa chemise déchirée, il faudrait que je pense à en racheter une. Ou le stock de haricots est presque fini. Et ça fait que parfois, on est vraiment absorbé. Et il arrive que il y a un enfant qui vient nous voir et qui commence à nous parler. Et c'est seulement au moment où il attend, l'enfant attend, parce qu'il attend une réponse, on se dit, tiens, oh, qu'est-ce que tu as dit au fait? On n'a rien entendu. On n'a rien entendu parce qu'on avait la tête occupée à autre chose. Ou parce qu'on était fatigué. Et la vie dans ce monde, c'est une vie qui est aride, qui est fatigante, qui est difficile. Et bien souvent, ça nous distrait. Quand le Seigneur nous parle, on ne l'entend même pas parce qu'on est fatigué. Mais quand tu prends la peine de te dire, je dois privilégier ma relation avec Dieu. Je ne veux permettre à rien, ni à personne, de me faire perdre cette soif, cette fraîcheur, ce désir pour Dieu. Je vous assure que quand on prend cette position, parce que la vie est une prise de position, que ce soit la vie naturelle, que ce soit la vie spirituelle, c'est une prise continuelle de position. Quand tu vis dans ta vie naturelle, tu es obligé chaque jour de prendre des positions. Je veux ça. Je vais faire ça. Et à chaque fois que tu prends une décision, tu te donnes les moyens d'y arriver. Les gens qui sont languissants, qui sont inertes, amorphes, ils ne prennent jamais de position et ils ne font jamais rien de leur vie. Vous les voyez le matin se lever, s'asseoir à tel endroit, attendre l'heure du repas, aller manger, aller dormir et retourner s'asseoir là. Après 5 ans, ce sont toujours les mêmes, 10 ans, et ils traversent toute leur vie. Ils n'ont rien fait du tout. Mais on voit d'autres personnes qui ont des rêves, des buts, des désirs. Ils prennent des positions et ça commence à l'école. Moi, je m'assois au premier rang devant le professeur. J'écoute ce qu'il dit parce que je veux me donner les moyens de réussir. Il prend une position, il en a le résultat. Vous savez, à l'école, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent. Les plus intelligents, bon, C'est plus facile pour eux. Parce qu'ils sont plus intelligents. Ils comprennent plus vite. Mais ce ne sont pas ceux qui réussissent le mieux. Ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui travaillent. Amen. Ce ne sont pas ceux qui trichent qui réussissent le mieux. Parce que leur réussite est un mensonge. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui travaillent. Et pourquoi ils travaillent? Parce qu'ils ont pris une position dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça. Nous devons prendre des positions. Amen. Et pour ce qui concerne la parole de Dieu, nous devons prendre une position parce qu'elle est notre vie. Elle est la garantie de notre réussite. Elle est la garantie de notre réussite. Parfois, on ne comprend pas certaines choses. Et ça arrive à tout le monde. Mais quand on est sincère, Dieu nous éclaire. Et un jour ou l'autre, on comprendra pourquoi Dieu a dit cela dans sa parole. Jusqu'à maintenant, jusque-là, je ne le comprenais pas. Mais maintenant, je sais pourquoi Dieu l'a dit. Amen. Amen. Tout le monde vit ce genre de choses. Pas pour tout ce qui concerne la parole, mais dans certains domaines. Il y a parfois des choses que nous ne comprenons pas. Et quand on prend la peine d'honorer Dieu, de dire « Seigneur, tu es plus grand que moi, tu penses mieux que moi, tu es meilleur que moi », ça et ça, je ne comprends pas. Mais si tu le dis, c'est parce que c'est important. Est-ce que vous pensez que Dieu peut se fatiguer à dire des choses qui n'ont pas d'importance? Tout ce que Dieu dit est important. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Si tu es sincère, tôt ou tard tu comprendras. Mais si tu es intelligent, même si tu ne comprends pas, tu diras, Seigneur, je préfère faire comme tu le dis, parce que ça va me protéger. Vous savez, nous avons tous des familles. Certains d'entre vous êtes mariés, d'autres non. Mais si vous n'êtes pas mariés, vous êtes les enfants de quelqu'un. Et quand on est parent, souvent quand nos enfants sont petits, on leur dit certaines choses. Ne touche pas ci. Ne fais pas cela. Parce que quoi? On les aime. Moi, je me rappelle un de mes enfants. Ce qu'il ne fallait pas le faire, il le faisait toujours. Mais alors, c'était systématique. Tu lui disais, ne fais pas ça. Tu n'avais pas tourné la tête. Tu peux être sûr qu'il l'avait fait. Et une fois, c'était vraiment une catastrophe. Parce qu'on avait une cuisinière électrique. Et la plaque, on avait fait de la cuisine. Et la plaque était très chaude. Et combien de fois on avait dit aux enfants, ne touchez pas à ça, c'est dangereux. Et on avait déjà enlevé la casserole. Et cet enfant n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sa main comme ça. Et je vous assure qu'elle a hurlé. Pendant 3 heures. Parce que les brûlures, tu te brûles là sur le moment. Ça fait mal sur le moment. Mais il faut des heures avant que la douleur finisse. Et elle avait des cloques terribles sur la main. Terribles. Vous savez, Dieu nous dit des choses pour notre protection. C'est seulement parce qu'il nous aime. Sinon, il ne se fatiguerait pas. Amen. À nous le dire. S'il nous le dit, c'est que c'est important. Et si tu ne le sais pas encore, vraiment je prie que tu ne l'apprennes pas au travers de tes erreurs, de tes chutes ou de tes péchés. Amen. Parce que parfois, on fait certaines choses, les conséquences, elles viennent après. Je parle de mon enfant qui a désobéi, qui a été mettre sa main là où il ne fallait pas la mettre. Elle a eu des conséquences instantanées. Mais parfois, les conséquences ne sont pas instantanées. Amen. Un des domaines dans lequel on va parler des trois domaines, mais ce matin on va parler seulement du domaine des pensées. La prochaine fois on parlera aussi du domaine des émotions et du domaine de notre volonté. Donc, comme je vous le disais, un des domaines dans lequel nous avons besoin d'être changés, c'est le domaine de nos pensées. Je vous assure que si nous pensions comme Dieu pense, notre vie ne serait pas comme elle est. Pas du tout. Tu vois, dans ta vie, là où il y a des problèmes, là où il y a des erreurs, sache bien une chose, c'est toujours à cause de tes mauvaises façons de penser. Toujours. Ce n'est jamais à cause du contexte. Ce n'est jamais à cause des autres. À cause des circonstances. Pour toi, c'est à cause de toi. Pour moi, c'est à cause de moi. Nos problèmes viennent de nous. Amen. Les circonstances peuvent venir et même durement. Mais quand on pense comme Dieu pense, on en sortira toujours vite. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais vous parler d'un homme qui pensait mal. Il ne pensait pas du tout selon Dieu. Et ça a fini par le tuer. Cet homme s'appelait Saül. On lit sa vie dans le premier livre de Samuel. C'est un homme qui avait été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Il avait été choisi. Il avait vraiment une grâce incroyable. Quelqu'un qui était absolument inconnu, qui sortait de nulle part, une petite tribu qui s'appelle Benjamin, une petite famille sans importance, et cet homme, du jour au lendemain, il se trouve à la tête du peuple d'Israël. Et cet homme avait un problème. Un problème qui se situait au niveau de ses pensées. Il ne pensait pas du tout comme Dieu. Ses pensées n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Et tant qu'il n'a pas été roi, ça ne se voyait pas. Vous savez, ce qu'il y a en nous ressort parfois au moment des problèmes, mais aussi parfois au moment de la bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, moi je n'ai pas de problème avec l'argent. Bon, ça va, j'aime bien l'argent, mais c'est pas mon Dieu. Je n'ai pas de problème avec les responsabilités. Confiez-moi des responsabilités et vous verrez que je suis quelqu'un de correct, quelqu'un de stable, etc., etc. Et en règle générale, tout le monde peut dire plus ou moins ce genre de choses. Quand tu n'en as jamais eu, mais le jour où tu en as, ça va révéler qui tu es vraiment. Amen. Amen. Nous arrivons dans une période où Dieu veut envoyer un réveil, envoyer sa gloire et sa puissance. Et il a besoin d'une chose, c'est que nos pensées deviennent, parce que nous l'avons voulu, parce que nous l'avons compris, conforme à ses pensées. Sinon, on va finir par se tuer comme Saül. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il se retrouve à la tête du peuple. Et en fait, on voit le début de son histoire, 1 Samuel chapitre 9. Vous pourrez lire son histoire à la maison et vous comprendrez rapidement que tous les problèmes qu'il a eus, ça venait de lui tout seul et c'était en rapport direct avec ses mauvaises façons de comprendre, de penser, de voir les choses. Un jour, il y a les ennemis qui sont là. Il est pressé par les ennemis. Il reçoit une parole de Dieu au travers de Samuel. Samuel lui dit, tu m'attends 7 jours et je viendrai le le septième jour. Et les ennemis sont là. Les circonstances sont là. Et Saül commence à réfléchir. Il commence à penser. Bon, maintenant que Samuel n'est pas encore arrivé, alors je dois prendre les choses en main. On ne peut pas attendre comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et il s'est permis d'offrir le sacrifice à la place de Samuel. Vous savez, c'était une faute très grave. Ça paraît pas grave comme ça. Mais c'était un déshonneur, un déshonneur. Quand Dieu dit quelque chose, on fait ce qu'il dit. On ne se trouve pas des excuses, ni des pensées, ni des raisonnements pour se permettre de faire autrement, de décider autrement. Et quand il reçoit là une parole, tu as agi en insensé à cause de ce que tu viens de faire. Dieu va te rejeter. Qu'est-ce que Saül aurait dû faire? Il aurait dû se précipiter pour demander pardon. Mais ça, non. Il n'a pas fait. Il a mal pensé. Il n'a pas mis Dieu au sommet de sa vie. Tu sais mieux que moi. Il n'était pas engagé avec Dieu. Même si je dois mourir, ça n'a pas d'importance. Je décide de t'honorer. Je décide de te respecter. Je décide de t'obéir. Non, non, non. Il s'est trouvé des excuses. Comme le dit Jacques. Des faux raisonnements. Ne raisonnez pas de telle ou telle manière afin de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et plus on grandit dans les responsabilités, plus on se trouvera dans des situations où si on n'est pas exactement là où on doit être, en train de faire ce que l'on doit faire, on va se casser. Amen. Ça, c'est la première chose que Saül a faite. La deuxième chose, un vœu insensé. Il était donc en guerre contre les ennemis et il dit, si quelqu'un ose prendre de la nourriture avant qu'on revienne vainqueur, cette personne sera mise à mort. Un vœu insensé. Quelque chose d'inutile. Quand on va au combat, on a besoin de force. Amen. Et Dieu n'avait jamais demandé une chose pareille. Saül était encore dans ses pensées. Et il y avait son fils Jonathan. Lui, il n'était pas au courant du vœu de son père. Et il a vu du miel quelque part. Et il s'est dit, tiens, il mange. Il retrouve des forces et il se sent mieux. Et ils arrivent dans la victoire. Notamment parce que Dieu a utilisé Jonathan. Et arrivé le soir, on fait le bilan. Et quand Saül entend que son fils a mangé, il veut le mettre à mort. Plutôt que de dire, bon, j'ai eu tort de faire un tel vœu, je vous ai fait souffrir, vraiment je demande pardon. Il voulait tuer son propre fils. Voyez ces mauvaises façons de penser. Ces idées personnelles qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Ensuite, il se trouve face à la situation de Goliath. Devant Goliath, il est complètement dépassé. Le peuple est terrorisé. Et Saül ne sait pas quoi faire. Dieu utilise David, le garçon selon son cœur, pour tuer Goliath. Et là, les problèmes vont commencer pour David. Parce que quand Saül voit cela, il commence à être jaloux. Il y a beaucoup de choses qui commencent à tourner dans sa tête. Des mauvaises pensées. Et ça ne fait que s'amplifier quand ils vont de ville en ville et que là, les femmes sortent avec leurs tambourins, commencent à chanter. Oh, Saül a tué ses mille. Alors, quand Saül entend ça, Il se gonfle. Mais l'instant d'après, elles disent, mais David a tué ses
10 000.
Alors là, il n'est plus du tout d'accord. Et pourtant, c'est la vérité. Amen. C'est pourtant la vérité. Commence encore à penser, préméditer beaucoup de choses. Dans le domaine de la vie de Saül, et surtout à ce niveau-là, il n'y a pas eu seulement ses pensées qui ont été impliquées. Il y a eu également ses émotions. Vous savez, on ne peut pas mettre les pensées ici, les émotions là, et la volonté là. C'est comme quand tu prends ton corps, tu peux pas poser ta main droite ici, la main gauche ici, et la tête là-haut. Le corps est un, n'est-ce pas? Heureusement d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà vu des mains se promener? Non, moi non plus d'ailleurs. Et pour en revenir à Saül, Il voulait tuer David. Plusieurs fois, il a trouvé des plans pour essayer de tuer David. Pourtant, il connaissait les 10 commandements. Il connaissait les 10 commandements. Il connaissait la loi de Moïse qui disait « Tu ne tueras point ». Mais pourtant, il était dans ses raisonnements. « Je dois me débarrasser de lui ». Il a tellement insisté, il s'est tellement enfoncé dans ses mauvaises pensées qu'un jour, à la fin de sa vie, il a invoqué des morts, c'est-à-dire fait de la sorcellerie. Et le dernier jour, il s'est suicidé. Ah, c'est pas venu dans sa tête un jour quand il s'est levé. Ça a été tout un processus. Et je vous assure, pour vous et pour moi, notre intérêt, c'est de recevoir la parole de Dieu avec douceur, de l'accepter, de nous y soumettre, parce qu'elle est bonne pour nos vies. Elle est là seulement pour nous aider. Ne pas lui résister. Ne pas grincer des dents quand on entend parfois des paroles qu'on n'aime pas trop. Parce que ça, finalement, ça ne nous arrange pas. On aimerait mieux faire ci. Et ne pas nous lancer dans des faux raisonnements. Parce que quand on raisonne, on finit par dire « Dieu, tu as tort, moi j'ai raison ». Et quand on est dans ce système-là, tôt ou tard, on finira comme Saül. Peut-être pas exactement dans les mêmes circonstances, bien sûr. Mais parce que Saül avait une mauvaise façon de penser, qu'il n'avait pas de respect de la parole de Dieu, il est entré un jour dans un processus de désobéissance. Et au lieu de se repentir, il a persévéré. Il a donné un accès au diable. Et je vous assure que quand on donne un accès au diable, il ne manque pas l'occasion de tendre des pièges, de provoquer certaines situations et qui vous amèneront à mal réagir. Amen. Soyons vraiment des personnes qui honorent Dieu, qui mettent Dieu en premier, qui ont vraiment un respect, une soif pour Dieu, un désir, un saint désir pour sa parole, l'écouter, la recevoir et la mettre en pratique. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.